Pendant que j'attendais mon taxi, j'ai fait du lèche-pare-brise dans le champ de voitures de Titus. J'étais particulièrement séduit par une Ford décapotable rouge de 54, une Sunliner, indiquait l'insigne en script sous le phare chromé côté conducteur. Elle avait des pneus à bandes blanches et une capote en toile véritable, dont les types dans le coup de Dragstrip Girl auraient dit que c'était pas une capote de PD.
« Cela n'est pas mal, monsieur, » a dit Bill Titus derrière moi. « Elle démarre au quart de tour. Ah, je peux en témoigner personnellement. »
Je me suis retourné. Il était en train d'essuyer ses pognes sur un chiffon rouge qui paraissait tout aussi graisseux qu'elle.
« Quelques points de rouille sur le bas de caisse, » j'observais. « Bah ouais, c'est ce climat. »
Il a haussé les épaules comme pour dire « Et qu'est-ce que vous voulez y faire ?»«
Le principal, c'est le moteur. Il est dans un état impeccable et les pneus sont presque neufs. »«
Moteur V8 ?»« Y-bloc, » m'a-t-il dit. Et j'ai hoché la tête comme si je comprenais parfaitement.
« Je l'ai acheté à Arlene Hadley à Durham, après que son mari a cassé sa pipe. S'il y avait une chose que Bill Hadley savait faire, c'était prendre soin d'une bagnole. »
« Mais vous ne voyez pas qui c'est, parce que vous n'êtes pas d'ici, pas vrai ?»«
Non. Wisconsin. George Amberson. »
Je lui ai tendu la main. Il a fait non de la tête avec un petit sourire.
« Ravi de vous rencontrer, monsieur Amberson, mais je voudrais pas vous remplir de cambouis.
Faites comme si c'était fait. »«
Zet acheteur ou juste reluqueur ?»«
Je ne sais pas encore, » ai-je répondu. Mais c'était faux. Je trouvais que la Sunliner était la voiture la plus cool que j'avais jamais vue. J'ai ouvert la bouche pour demander sa consommation, puis j'ai réalisé que c'était une question quasiment sans pertinence dans un monde où on pouvait faire le plein pour $2. J'ai préféré demander si c'était le modèle standard.
« Ah, je veux ! Et quand vous passez la seconde, vous avez intérêt à gaffer les flics, elle met la gomme en seconde !»
Vous voulez l'emmener faire un tour ? Je ne peux pas, j'ai dit. Je viens d'appeler un taxi.
Ça, c'est pas une façon de voyager, a déclaré Titus. Si vous achetiez celle-ci, pourriez rentrer dans le Wisconsin avec style et laisser le train à la gare.
Combien en demandez-vous ? Celle-ci n'a pas le prix affiché sur le pare-brise.
Non, pas eu le temps, je l'ai juste rentré hier.
Il a sorti ses cigarettes.
Je la fais à 350, mais ça se discute.
J'ai bien serré les dents pour empêcher ma mâchoire de se décrocher et je lui ai dit que j'allais y penser. Si mes pensées prenaient le bon chemin, ai-je ajouté, je reviendrai le lendemain.
Oh, vaut mieux pas traîner, monsieur Amberson. Celle-ci va pas rester longtemps sans bouger.
Voilà qui m'a à nouveau réconforté. J'avais des pièces qui ne marchaient pas dans les téléphones publics, les opérations bancaires se faisaient encore principalement à la main, et les téléphones vous gloussaient bizarrement à l'oreille lorsque vous composiez un numéro sur le cadran. Mais certaines choses ne changeaient pas. Le chauffeur de taxi était un gros type coiffé d'une casquette usée assortie d'un badge « chauffeur assermenté ». Il fumait des Lucky Strike à la chaîne, et écoutait WJAB à la radio. Nous avons eu droit à Sugar Time par les Maguire Sisters, Bird Dog par les Everly Brothers et Purple People Eater par un individu présenté comme Chab Woolley. De celui-là, j'aurais pu me passer. Après chaque chanson, un trio de jeunes femmes désaccordées chantonnait sur 1440 WJAB. « Ça jazz, bébé !» J'ai ensuite appris que les établissements Romanoff organisaient leur braderie de fin de saison et que F.W. Woolworth venait de recevoir un nouvel arrivage de cerceaux de hula hoop qui allait s'arracher au prix démentiel d'1,39 $.
« Ces foutus guignols font rien qu'enseigner aux gosses à se trémousser !»
a maugré le taxi en laissant filer sa cendre de cigarette par la vitre ouverte. Ce fut sa seule tentative de conversation entre Titus Chevron et le Tamarack.
J'ai baissé ma vitre pour échapper un peu au voile de fumée et regardé défiler un monde différent. La zone urbaine tentaculaire entre Lisbon Falls et Lewiston n'existait pas encore. À part quelques stations-service, le Hi-Hat Drive-In et le Ciné-Park, l'auvent annonçait un double programme avec Vertigo et les Feux de l'été, tous deux en cinémascope et technicolor, nous étions dans des paysages de campagne typiques du Maine. J'ai vu plus de vaches que d'habitants. Le relais automobile était situé en retrait par rapport à la route, non pas à l'ombre de Mélèze, mais d'ormes immenses et majestueux. Ce n'était pas comme voir un troupeau de dinosaures, mais presque. Je suis resté béat devant eux, tandis que Mister Chauffeur Assermenté allumait une autre cibiche.
« Besoin d'un coup de main pour vos bagages, monsieur ?»«
Non, ça ira. » Le tarif affiché à son compteur n'était pas aussi impressionnant que les ormes, mais je l'ai quand même regardé à deux fois pour le croire. J'ai donné $2 au gars et demandé la monnaie sur $1,50. Il a paru satisfait. Le pourboire était suffisant pour acheter un paquet de Lucky. Je suis passé par la réception, sans problème, versement liquide sur le comptoir et zéro pièce d'identité à montrer, et je suis allé faire une longue sieste dans une chambre où la climatisation consistait en un ventilateur posé sur l'appui de la fenêtre. Je me suis réveillé dispo, bonne chose, pour me découvrir ensuite victime d'insomnie pendant la nuit, moins bonne chose. Il n'y avait presque pas de circulation sur la route après le coucher du soleil, et le silence était si profond qu'il en était inquiétant. La télévision était un modèle de table Zénith qui devait bien peser 50 kilos. Une antenne en forme d'oreille de lapin était posée dessus. Et appuyé contre, un écriteau disait « Réglez l'antenne à la main, pas de papier alu, SVP, merci. La direction. » Il y avait trois chaînes. La filiale de NBC était trop brouillée pour la regarder, même en tripotant dans tous les sens les oreilles de lapin. Et sur CBS, l'écran défilait verticalement. Tripoter le bouton de réglage vertical n'eut aucun effet non plus. Sur ABC, où l'image était claire comme un son de cloche, il passait « The Life and Legend of Wyatt Earp » avec Hugh O'Brien. Wyatt a flingué quelques hors-la-loi, puis une réclame pour les cigarettes Viceroy s'interposa. Steve McQueen expliqua que les Viceroy avaient le goût qu'apprécie le fumeur et le filtre qu'apprécie le sage. Pendant qu'il en allumait une, je me suis levé du lit et j'ai éteint le téléviseur. Alors, il n'est plus resté que le chant des grillons. Je me suis mis en caleçon, me suis rallongé et j'ai essayé de dormir. Mes pensées se sont tournées vers ma mère et mon père. Mon père avait 6 ans. Et vivait à Eau Claire. Ma mère en avait seulement 5 et vivait dans une ferme de l'Iowa qui allait brûler du sol au plafond d'ici 3 ou 4 ans. Sa famille déménagerait ensuite dans le Wisconsin, se rapprochant ainsi de l'intersection de vie qui, en fin de compte, déboucherait sur moi. Je suis fou, ai-je pensé. Fou et victime d'une hallucination terriblement compliquée. En hôpital psychiatrique, quelque part. Peut-être qu'un médecin va rédiger un article sur mon cas pour une revue spécialisée. Au lieu de « l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau », on m'appellerait « l'homme qui pensait qu'il était en 1958 ». Mais j'ai passé ma main sur le couvre-lit en chenille, que je n'avais pas encore repoussé pour me coucher, et j'ai su que tout cela était vrai. J'ai pensé à Lee Harvey Oswald, mais Oswald appartenait encore à l'avenir, et ce n'était pas lui qui me tracassait dans cette chambre de motel de musée. Je me suis assis au bord du lit, j'ai ouvert la sacoche et pris mon téléphone portable, gadget du futur absolument sans valeur ici. Pourtant, je n'ai pas pu résister à la tentation de l'ouvrir et de l'allumer. Bien sûr, les mots « pas de réseau » se sont affichés sur l'écran. À quoi est-ce que je m'attendais ? 5 barres ? Une voix plaintive me serinant Rentre à la maison, Jake, avant de faire des bêtises impossibles à réparer.
Stupide superstition. Si je faisais des bêtises, je pourrais les défaire, parce que chaque voyage était une remise à zéro. Autant dire que le voyage dans le temps était livré avec interrupteur de sécurité intégré. C'était rassurant. Mais avoir un téléphone comme celui-ci, dans un monde où la télévision couleur était la percée technologique la plus importante en matière d'électronique grand public, n'avait rien de rassurant. Je ne serais pas pendu pour sorcellerie si j'étais pris avec ce gadget sur moi. Mais je pourrais être arrêté par les flics locaux et gardé à vue le temps que quelques-uns des gars de J. Edgar Hoover rappliquent de Washington pour me cuisiner. Je l'ai posé sur le lit, puis j'ai retiré toute ma monnaie de ma poche droite. J'ai séparé les pièces en deux piles. Celles de 1958 et avant retournèrent dans ma poche. Celles du futur rejoignirent une des enveloppes mises à disposition dans le tiroir de la table de bureau, avec une Bible Gideon et un menu des plats à emporter du Hi-Hat. Je me suis habillé, j'ai pris ma clé et j'ai quitté la chambre. Dehors, le chant des grillons était beaucoup plus fort. Un morceau de lune brisée flottait dans le ciel. Loin de son éclat, les étoiles n'avaient jamais semblé si vives ni si proches. Un camion passa en grondant sur la 196, puis la route retrouva le silence. C'était la campagne, et la campagne dormait. Au loin, un train de marchandises a sifflé, perçant un trou dans la nuit. Il n'y avait que deux voitures dans la cour du motel et les chambres correspondantes étaient plongées dans l'obscurité, de même que le bureau. Avec l'impression d'être un criminel, je me suis éloigné dans le champ prolongeant la cour du tamarack. L'herbe haute a bruissé contre les jambes de mon jean que je troquerai le lendemain contre mon nouveau pantalon en viscose. Une clôture en fil de fer marquait la limite de la propriété du tamarack. Au-delà, il y avait un petit étang, ce qu'en milieu rural on appelait un réservoir. À proximité, une demi-douzaine de vaches dormaient dans la nuit chaude. L'une d'elles m'a regardé au moment où je me frayais un passage sous la clôture et me dirigeais vers le réservoir. Puis elle s'est lassée et a baissé la tête. Elle ne l'a pas relevé quand mon téléphone portable Nokia a plongé dans l'étang. J'ai fermé l'enveloppe contenant ma monnaie et l'ai expédiée rejoindre le téléphone. Puis je suis revenu par le même chemin, m'arrêtant derrière le motel pour m'assurer que la cour était toujours déserte. Elle l'était. Je me suis glissé dans ma chambre, déshabillé et endormi quasi instantanément.